C'est un podcast Vivre FM. Et nous retrouvons nos deux invités de soignants ou ex-soignants, Blaise Rocha. Bonjour Blaise.
Bonjour.
Alors vous êtes aujourd'hui enseignant dans le domaine de la santé, vous êtes père aidant également, Blaise, et vous êtes accompagné aujourd'hui au téléphone de Jean-Paul Lanquetin. Bonjour Jean-Paul.
Oui, bonjour Vivre FM, bonjour à vous. Jean-Paul Lanquetin, donc je suis infirmier de secteur psychiatrique et je suis chercheur en soins également.
Au CNRS?
Non, pas au CNRS,
non.
Chercheur dans une activité de promotion de la recherche en soins.
Très bien, un groupe de recherche en soins infirmiers.
Infirmiers.
Voilà, parfait. Tous les deux, vous avez travaillé ou vous travaillez encore en milieu hospitalier, en HP, hôpital psychiatrique. Est-ce que vous avez été confronté vous-même à un climat anxiogène?
Alors peut-être juste pour préciser au fond...
Alors Blaise?
Oui. En ce qui me concerne, j'ai travaillé effectivement un certain nombre d'années comme infirmier, puis ensuite j'ai fait de l'enseignement dans une haute école, et j'ai effectivement fait une décompensation psychotique à l'âge de 45 ans, et donc j'ai été à ce moment-là hospitalisé à plusieurs reprises contre ma volonté, et puis maintenant ça fait, bien quelques années que je suis dans un rétablissement important, et donc j'ai un peu un double regard sur la question, c'est-à-dire le regard effectivement d'un ancien professionnel de la psychiatrie, et puis aussi d'un patient qui a été hospitalisé et qui a connu au fond l'hôpital psychiatrique, mais on pourrait dire un peu de l'autre côté.
Oui, oui. Et alors justement, on va commencer par le côté soignant. Est-ce que vous, lorsque vous étiez soignant, Blaise, vous avez connu ça?
Alors, bien entendu, et que de ce point de vue-là, la peur, je pense qu'elle fait partie, en tout cas d'une partie du travail, qu'il ne faut pas effectivement non plus la surestimer, mais que le contexte psychiatrique est un contexte où, au fond, les règles sociales se posent un peu différemment, où il y a certaines inconnues, et par exemple, par rapport à des patients qui sont psychotiques, qui sont délirants ou qui ont des hallucinations, c'est sûr que ça représente des incertitudes sur le plan relationnel qui sont plus importantes que dans d'autres types de relations, et donc ça peut amener effectivement à des craintes.
Oui, oui. Mais vous vous êtes déjà levé le matin en vous disant « j'ai pas envie d'aller au boulot, ça me fait peur ». Ça me stresse?
Alors, pour moi, en tout cas, c'était rare dans ce sens-là que ce soit vraiment la question de crainte, par exemple, de patients qui fassent en sorte que j'ai pas envie ou effectivement je me trouve mal à l'aise par rapport à aller au travail, dans le sens où il y a quand même toujours cette idée d'équipe et au fond de pas être seul à gérer les choses. Mais de se dire qu'on est une équipe et qu'on peut effectivement compter les uns sur les autres et faire de l'intervision et se donner au fond un certain nombre de moyens pour pouvoir faire en sorte que les choses au fond se passent au mieux et ne soient pas portées uniquement par exemple par une personne ou un soignant.
Oui, Jean-Paul Lanquetin, vous-même vous êtes infirmier dans le secteur psychiatrique. Est-ce que vous avez connu ça aussi, ce climat anxiogène, cette peur parfois?
Alors il faut d'abord situer d'où viendrait le climat anxiogène, si les patients sont à la source de ce climat.
Alors, oui.
Je dirais effectivement que le gros du travail infirmier, c'est justement d'aller en direction des patients et de travailler justement à une dimension du vivre ensemble. Hein. Il faut bien imaginer qu'un service de psychiatrie, la population n'est pas, réalité, et donc il y a des mouvements, des croisements, des rencontres, des passages. Et le gros du travail infirmier, c'est de créer justement des relations de proximité et de créer un sentiment partagé de quiétude. Et moi, je pense que ce qui caractérise plus la psychiatrie, c'est cette capacité prosociale et la qualité de ce vivre ensemble qu'on peut avoir. Donc la question anxiogène, je la vois plus comme une question symptomatique de quelque chose qui clocherait à un moment donné dans les situations, dans les unités de soins. Oui, par moment, il y a des patients qui peuvent être effectivement, comme le rappelait Blaise, assez bruyants au niveau de leur sémiologie, au niveau de leur présentation, et que donc on va avoir un climat d'inquiétude qu'on va partager. Mais le partage entre nous, c'est-à-dire entre soignants, voire aussi avec le groupe patient de ce climat, c'est justement pour essayer de l'apprécier, de l'évaluer, et puis de le désamorcer au plus tôt. Et là, on est dans un travail effectivement clinique qui est le travail essentiel aujourd'hui, enfin, c'est le travail des soignants en psychiatrie.
Oui, oui, oui. Ben, on comprend bien que c'est un beau métier et que vous êtes là pour aider les gens. Parfois, il y a quand même des situations où un patient peut être violent, dans un état délirant, dans une bouffée délirante. Et là, il peut y avoir des coups.
Je ne connais pas de patient qui soit violent par nature.
Bien sûr.
Et la violence, effectivement, quand elle arrive toujours dans un contexte. Donc, elle est située et elle est dans une relation. Et donc, elle est situationnelle et interpersonnelle. À un moment donné, donc, l'expression de la psychopathologie, et si c'est par la question du passage à l'acte ou de la violence, effectivement, peut arriver. Mais le travail, encore une fois, des soignants, c'est essayer de l'anticiper. Et puis, quand on parle de patients violents, il faut aussi regarder ça, je pense, avec le regard de la longue durée. Je vous disais, donc moi, ça fait plus de 40 ans que j'étais infirmier. Et mes 20 premières années, on ne parlait pas de violence en hôpital psychiatrique. Non pas qu'il n'y en avait pas, mais qu'elle était lue du côté d'un symptôme. On disait qu'un patient avait fait une crise d'agitation, qu'il était dans un état de fureur, une crise classique. Donc, on avait des mots psychiatriques pour décrire cet élément de la sémiologie. Et la question de la violence, c'est une infiltration d'une préoccupation sociale qui touche le sens sanitaire. Ce n'est pas une manifestation pathologique ou psychopathologique en soi.
Oui. Blaise Rocha.
Oui. Moi, ça me fait penser un peu à une anecdote, à un moment donné où effectivement, quand je travaillais en psychiatrie, à un moment donné, une patiente est arrivée vraiment très décompensée et apparemment complètement incontrôlable comme ça. Et qu'effectivement, enfin, on était inquiets et un peu démunis, et on a fait appel à ce moment-là au médecin-chef qui est venu et qui a dit quelque chose que je trouvais intéressant, c'est-à-dire qu'il a dit à cette femme, écoutez, au fond, je peux comprendre enfin votre souffrance, mais c'est pas parce que vous êtes en psychiatrie que vous pouvez vous permettre d'être complètement folle.
Mmh.
Et au fond, ça a vraiment complètement désamorcé l'épisode. Et je trouvais ça intéressant dans le sens où on voit bien que là, ce qui se passe s'inscrit quand même dans un lien et que c'est pas parce qu'on est en psychiatrie qu'il n'y a plus de référence sociale et qu'au fond, ce serait un espèce de lieu chaotique comme ça, qui serait incontrôlable et où il y aurait des violences, enfin, qui serait vraiment difficile à gérer. Mais effectivement, il y a probablement à rappeler à un moment donné que c'est un contexte où effectivement, les règles du jeu comportemental ou comportementaux sont un peu différentes. Mais au fond, il y a quand même toujours un certain cadre et donc il y a un certain nombre de limites à poser sur le plan de la violence et sur le plan effectivement de l'agressivité, par exemple.
Oui, et ça fonctionne quand vous les posez, ces limites ?
Alors oui, je pense oui, que ça fonctionne assez largement. Je veux dire maintenant, probablement de nouveau pas dans tous les cas, qu'il y a vraiment des situations qui sont singulières. Mais disons qu'il y a aussi des situations singulières sur le plan social et que comme on le voit sur le plan statistique, il n'y a pas plus de violence chez des personnes qui ont des troubles psychiques que dans la moyenne au fond de la population. Donc voilà, il y a des particularités, mais je dirais pas notablement plus qu'ailleurs.
Et Jean-Paul, vous vouliez intervenir ?
Oui, je pense qu'effectivement, il peut y avoir des moments de grande tension et la question c'est d'accompagner et d'absorber effectivement au niveau de l'accompagnement soignant ces moments d'expression même s'ils peuvent être virulents. Un des gros éléments de la question c'est effectivement d'aborder au plus tôt ces situations, donc de créer des liens avec les patients dès l'accueil. L'accueil est un moment capital dans la construction relationnelle qui va suivre. Et une fois qu'on a déjà ces éléments de connaissance, on va justement avoir des éléments relationnels suffisants qui vont pouvoir maintenir une forme de lien. Et c'est au nom de ce lien qu'on va justement arriver à faire passer les limites qui sont les limites sociales et puis les limites qui sont celles des nôtres à un moment donné. N'oublions pas qu'une partie du travail soignant en psychiatrie sur la question de la limite, c'est aussi savoir déplacer nos limites de façon à ce que le patient ne soit pas... qui ne dépasse pas les bornes. C'est à nous aussi de dépasser les bornes. Hein, s'il y a aussi cette dimension-là.
Oui, oui. Blaise Rocha, vous qui avez été aussi de l'autre côté, donc vous avez été patient à un moment donné de votre vie, comment vous ressentiez les choses ?
Alors, pour moi, effectivement, la question qu'évoque Jean-Paul à travers le lien, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose de déterminant. Et que ça a été à un moment donné assez compliqué pour moi parce que j'étais effectivement délirant, j'avais pas mal d'hallucinations auditives, donc j'entendais des voix. Et au fond, j'avais plus les mêmes références que les soignants et que la société. Et à ce moment-là, en étant hospitalisé et en étant délirant, j'ai eu l'impression que dès que j'évoquais quelque chose, au fond, pour les soignants, c'était considéré comme délirant, donc ils coupaient. Et j'ai vraiment eu le sentiment, au fond, de pas pouvoir être compris et entendu dans ce que je vivais sur le plan intérieur, parce que c'était systématiquement considéré comme délirant, donc qu'il fallait pas permettre l'expression de cela, puisque ça aurait risqué, au fond, de le renforcer.
Oui.
Et je pense que c'est une erreur dans la mesure où, en agissant comme ça, il n'y a plus de lien, il n'y a plus de relation. Et au fond, l'isolement relationnel amène à être encore plus délirant et à peut-être se mettre en danger ou à peut-être être potentiellement violent. Et donc, à ce moment-là, je pense que c'est vraiment essentiel pour les soignants d'accueillir au moins un minimum ce qui est vécu sur le plan intérieur, même si c'est délirant, pour privilégier vraiment le lien, la relation, même s'il faut un peu sacrifier du contenu pour cela. Mais que c'est vraiment, je pense, quelque chose d'essentiel par rapport à diminuer les tensions, parce que ce qui peut pas être géré sur le plan de la relation et de la parole, ça risque de devoir l'être sur le plan du corps, et donc de violence physique. Et donc on n'a pas d'autre outil que la parole sur le plan symbolique pour essayer de désamorcer des situations.
Oui, Jean-Paul, vous entendez ça et vous en êtes conscient aussi ?
En parfaitement conscient, et c'est vraiment intéressant. Le témoignage et la justesse et la richesse du témoignage de Blaise sur son expérience. Si on est effectivement uniquement confronté aux symptômes du patient dans une expression qui peut être effectivement instable ou délirante, il y a d'autres moyens. Une personne, c'est toujours une personne. Et puis, indépendamment de ce qu'elle présente à un moment donné dans un état de crise, il y a toujours une partie de la personne qui est quand même présente aux autres et on va essayer de s'adresser à celle-là. Alors, quelle est l'idée globale? C'est qu'effectivement, on ne va pas rentrer frontalement par le symptôme, surtout quand une personne est hospitalisée, on a quand même un peu de temps. Donc, l'idée, c'est bien essayer de trouver des modes d'abord et de renouveler des modes d'abord à l'autre qui soient le plus simple et le moins menaçant possible. J'aime bien le terme de familier. Familier dans le sens de créer de quelque chose de rassurant, de contenant, de connu, de prévisible. Et ces éléments susceptibles de créer un peu de sécurité interne vont pouvoir justement, à côté de l'expression, ouvrir un chemin relationnel avec le patient, et c'est au nom de ce chemin relationnel qu'on va pouvoir regarder ensemble la problématique psychique, voire son expression effectivement psychopathologique. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller vers les patients et puis partager des petits moments significatifs qui ont pour objet de toucher une communauté de vécu, une communauté d'expérience, un fond de mémoire partagé. Alors ça peut être une chanson, ça peut être une boisson, ça peut être une partie de pétanque, ça peut être un petit moment. Mais tous ces petits éléments qui vont mobiliser à minima l'attention et qui vont nous rapprocher sur quelque chose de notre humanité partagée.
Oui. Blaise, cette expérience, lorsque vous avez fait cette décompensation psychotique, est-ce que ça vous a appris des choses qui vous ont été utiles par la suite dans ce métier de soignant?
Alors, oui, effectivement. Une des choses qui est quand même un peu particulière, je trouve, à ce contexte, c'est ce grand clivage, donc cette séparation extrêmement importante qu'il y a entre bien portant et patient. Et donc, c'est comme si on était vraiment complètement d'un côté ou de l'autre, mais qu'il n'y avait pas d'entre-deux. Et que ça, c'est quelque chose qui est beaucoup moins fort, par exemple, dans le domaine des hôpitaux généraux ou des troubles somatiques. C'est vraiment assez propre à la psychiatrie. Et donc, une fois qu'on a été catalogué ou catégorisé dans troubles psychiques et en particulier psychotiques, c'est extrêmement difficile de s'extraire de cette étiquette, et des fois presque autant par auto-stigmatisation que par stigmatisation sociale. C'est-à-dire que je pense qu'on intègre en tant que patient le fait que d'une certaine manière, sur le plan social, on est disqualifié. Et donc, que c'est quelque chose, effectivement, qui a eu ouais, une forme de stigmate qu'on porte avec soi. Et je trouve donc c'est extrêmement difficile de se défaire, puisqu'il n'y a un peu que deux catégories, quoi. Il y a effectivement ou bien les patients, ou bien effectivement les personnes saines et normales. Et que de ce point de vue-là, je trouve extrêmement intéressant l'évolution avec l'apparition des pères aidants, qui sont justement des professionnels qui arrivent et qui représentent un peu un entre-deux, enfin, qui sont effectivement des personnes qui ont connu des troubles psychiques, qui se sont rétablies et qui peuvent être comme ça des images d'identification pour les patients qui sont réalistes. Tandis que la relation, au fond, avec les soignants, selon, elle est assez compliquée, parce qu'il y a vraiment quelque chose là de très clivé dans le système psychiatrique.
Oui, oui, la relation avec les soignants, c'est là qu'il faut travailler. Qu'est-ce qu'on peut faire, Jean-Paul Langtin? Là, vous avez déjà, donné des pistes. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour améliorer les choses, la communication et créer un climat intéressant pour tout le monde?
Revenir sur les fondamentaux du soin et du soin infirmier en psychiatrie, qui ne sont plus enseignés aujourd'hui de fait de l'évolution des formations initiales pour les infirmiers, ou sans être très exhaustif, je dirais qu'on a perdu 90% des contenus théoriques et cliniques au métier et à la psychiatrie en 30 ans.
C'est énorme.
La formation initiale, c'est énorme, c'est abyssal à la formation des infirmiers.
Mais qu'est-ce qui se passe?
C'est pas en 3-4 heures qu'on va apprendre le fonctionnement de la psychose ou de la schizophrénie. Et puis, de toute manière, les éléments diagnostiques et sémiologiques et psychopathologiques sont importants à connaître. Mais ce qui est important à connaître, c'est les fondamentaux du soin. Autrement dit, ce que j'essaye de développer dans l'idée, qu'est-ce que ça nous fait, et d'aller vers l'autre. Et qu'est-ce qu'on va mobiliser de nous pour essayer, effectivement, de multiplier les abords relationnels pour créer un lien suffisamment significatif et sécure, sur lequel on pourra construire une relation qui deviendra, si possible, une relation de confiance, sur laquelle on construira de l'alliance thérapeutique qui sera un marqueur favorable des parcours de soins. Alors, le premier point, effectivement, des fondamentaux, c'est apprendre à aller vers l'autre, apprendre, effectivement, à se poser, regarder qu'est-ce que ça fait en soi d'avoir cette proximité, regarder ces mécanismes psychiques dans la rencontre. On parlait de peur. Alors, je crois qu'il y a deux niveaux de peur. La peur, il faut la lire comme un indicateur. La peur, c'est un élément qui va nous saisir, nous dire attention, on va se mettre en hypervigilance. Alors, le niveau de peur qu'on rencontre dans un service va aussi dire quelque chose du climat d'insécurité collective, qui n'est pas forcément corrélé à la sévérité du trouble des patients. Et ça, c'est une notion très importante. C'est l'imaginaire qui fait peur en grande partie. Hein. Et puis, il peut y avoir des éléments, factuels. Donc, le climat d'insécurité, ça serait la peur d'avoir peur.
Oui.
Et il faut opposer à cette idée de la peur d'avoir peur un climat de sécurité ou du sécurisant. Donc, c'est la dimension différente entre sécuritaire, dont la psychiatrie a été très marquée les 10-15 dernières années, la dimension sécurisante qui est de créer effectivement ces dimensions contenantes. La dimension sécurité, c'est pas ne pas avoir peur. C'est repérer qu'à un moment donné, dans une situation, on peut avoir peur. Et on a justement peur parce qu'on n'a pas encore trouvé le moyen d'aller rencontrer ce patient-là dans son expression et de tisser quelque chose ensemble avec lui. Et aussi, parce que la peur est toujours partagée, quelque chose qui puisse également le rassurer. Donc il y a un effet effectivement relationnel. Mais travailler avec un petit peu de peur, c'est-à-dire je ne sais pas toujours, chaque personne est singulière, chaque situation est nouvelle. Donc accepter d'y aller sans savoir ce qui va se passer va créer des possibilités nouvelles de relations et des possibilités d'accroche.
Oui.
Donc cela passe essentiellement, c'est ce matériel clinique, sémiologique, ces savoir-être, savoir-faire, savoir d'action, qui aujourd'hui font en grande partie défaut dans la formation initiale des infirmiers qui travaillent en psychiatrie.
Oui. Et vous, Blaise Rocha, vous êtes en Suisse, vous avez aussi ce déficit de formation?
Alors les formations ont aussi évolué dans le sens où il y a un certain nombre d'années, il y avait vraiment une formation qui était spécifique au domaine de la santé mentale et de la psychiatrie. Et puis actuellement, effectivement, ce sont des formations plus généralistes qui correspondent au fond un peu à tous les milieux de soins et qui, effectivement, comme le dit Jean-Paul aussi, ont perdu enfin, un certain nombre de contenus et de stages dans des contextes liés plus à la psychiatrie, qui est effectivement assez perdante, en tout cas dans cette évolution.
Oui, oui. À votre avis, il faudrait remettre du contenu, en tout cas de la connaissance de cas psychiatriques, de théories psychiatriques pour améliorer la communication, la connaissance ?
En formation initiale, oui. Je pense qu'il y a un point qui est important. Il faut savoir que les formations ont évolué ces 30 dernières années avec 92, qui était la suppression du diplôme spécifique des infirmiers psychiatriques, puisqu'on est passé à un infirmier polyvalent, donc qui peut aller travailler un peu partout. Puis 2009, la dernière, où effectivement l'enseignement de la psychiatrie se résume à une centaine d'heures à peu près. Là, on en avait plus de 1000, hein, grosso modo, hein, pour aller vite. Mais si on regarde, c'est la question aussi, c'est le regard qu'on porte sur la psychiatrie, donc sur les malades, les patients qui fréquentent les dispositifs de soins et les lieux de leur traitement. La psychiatrie publique aujourd'hui, c'est plus de 2 millions de personnes qui chaque année reçoivent des soins. Donc ce n'est pas effectivement quelque chose c'est pas quelque chose d'anodin. Là, on a vu l'importance de la santé mentale avec le Covid et on le voit aujourd'hui autour des inquiétudes qu'on peut avoir pour les jeunes sur ces questions. Donc, revenons sur la question de la stigmatisation et la manière qu'on a dans notre société française, plus que dans d'autres sociétés européennes, de regarder la difficulté psychique ou la maladie. On entend même dans les discours médiatiques un certain nombre de commentateurs ou d'acteurs traiter les uns et les autres de schizophrène, d'autiste.
Oui, d'autiste, oui.
On n'aurait pas idée de se balancer à la figure des termes comme cardiaque, cancéreux, diabète, voilà. Donc il y a quelque chose qui est bizarre dans effectivement cette utilisation un peu facile, qui est un mélange de fascination-répulsion sur la psychiatrie. Mais ce qu'on peut dire, c'est que souvent la psychiatrie est trop souvent, elle est assimilée à une représentation de violence, c'est un peu le thème que vous avez introduit avec cette émission, et donc on va porter un certain nombre d'images comme ça, psychiatrie, danger, les patients sont dangereux. Et Blaise le rappelait très justement. 3% des patients psychiatriques sont auteurs de crimes et délits, c'est exactement la même moyenne qu'en population générale. Donc il n'y a pas de surreprésentation des patients en psychiatrie auteurs de crimes et délits. Parfois, oui, ils sont effectivement plus incompréhensibles. Mais un crime fou n'est pas un crime d'un fou non plus. Hein, il y a,
oui,
la question de l'entendement qu'on peut...
C'est quelque chose de ponctuel, on peut perdre son, ouais, entendement ponctuellement.
Quelque chose qu'on peut entendre sur ces représentations négatives. Et ces représentations négatives, qui sont liées notamment à la violence, comme elles sont diffusées effectivement dans le grand public, elles créent des représentations péjoratives chez les professionnels comme en population générale. Et le problème que celui-là a très justement Blaise, c'est que ces représentations négatives vont, la stigmatisation va être internalisée par un certain nombre des patients ou des gens ou des personnes ou des citoyens en souffrance, et que cette internalisation, ça veut dire que je suis malade, donc je suis potentiellement ceci, cela, et donc ça va retarder l'accès aux soins.
Oui.
Donc on est dans une question de santé publique. Si on revient à la question de la formation des infirmiers, avec la formation généraliste, tous les infirmiers font un stage en psychiatrie, enfin, et à peu près la grande majorité, donc ils font plutôt un mois de stage à peu près en psychiatrie ou un peu plus. Si on fait un bilan de ces stages, dans l'ensemble, ils sont plutôt étonnés que leur séjour en psychiatrie, leur stage s'est plutôt bien passé, et tous relèvent à la fois qu'en psychiatrie, il existe encore une qualité d'accueil des professionnels, donc des personnes en situation de souffrance. Et puis aussi, on peut être plus le temps de la relation qui manque tant aujourd'hui chez les professionnels dans les établissements. Donc, ils font des expériences plutôt positives, mais ça ne modifie pas le noyau central des représentations chez les professionnels qui se disent, j'imagine, peut-être qu'on est bien tombé, mais à côté, la psychiatrie, ça doit être difficile, il y a beaucoup de violence et des choses comme ça. 30 ans après, on voit que la représentation sociale de la psychiatrie chez les professionnels de santé est à peu près équivalente à celle en population générale. Donc effectivement, ça signe également un échec et qu'on a un gros travail de faire, de travailler sur la représentation de la souffrance psychique sans qu'elle soit toujours liée à asile, s'évader, dément, talent, enfin tout d'un vocabulaire qui dit quelque chose plus du présentateur ou du commentateur qu'il ne décrit une réalité objective.
Oui.
Et à ce point, j'associe un point d'actualité qui m'a touché personnellement. Ça a été il y a quelques jours sur l'émission de TF1, le chanteur Stromae, qui a chanté une magnifique chanson et qui a eu
l'enfer,
à la fois cette pudeur et ce courage de décrire son malaise interne avec des mots simples. J'ai trouvé que ce témoignage était, comme le fait Blaise également, sont des puissants vecteurs de déstigmatisation. C'est-à-dire que même des personnes qui sont célèbres, qui ont des compétences, peuvent être confrontées à des grands moments de détresse et de souffrance psychique. Donc elles créent des identifications positives à ce que peut être la détresse psychique. Et du coup, comme ils voient qu'elle en parle et qu'elle s'en sort, donner envie effectivement de s'identifier et de s'en sortir, c'est la même idée que les pères aidants dont nous parle Blaise. À l'inverse, si on n'en parle pas et qu'on voit des personnes célèbres, qui, je pense à Robbie Williams, quand il s'était suicidé, et c'est des personnes célèbres, ça crée un phénomène d'aspiration, aussi la manière d'en parler, un suicide réussi, on ne peut pas parler de réussite pour un suicide. Et effectivement, ça crée un phénomène qui libère effectivement des pulsionnalités mortifères et augmente le niveau de suicide. Inversement, des témoignages comme Stromae sont des opérations de santé publique en termes de prévention, à mon avis.
Et on en a parlé aussi sur l'antenne de Vivre FM. Blaise Rocha, Stromae, qui est belge, ça a eu un impact aussi chez vous ?
Oui, ça a été très, très frappant, très repris, effectivement, sur les réseaux sociaux. Et puis, ça a effectivement ramené la thématique du suicide et des idées suicidaires vraiment un peu au centre du débat et des discussions. Donc effectivement, ça a eu passablement d'impact et comme le dit Jean-Paul, effectivement, je pense dans un sens vraiment intéressant par rapport à pouvoir évoquer un certain nombre de choses qui sont quand même effectivement largement tabous sur le plan social.
Oui, et pourtant la dépression, on connaît depuis très longtemps, il y a quand même beaucoup de gens qui sont passés par là, il y a toujours un regard négatif, un regard d'incompréhension.
Alors, sur la dépression, en reprenant la parole, parce que justement, dans les enquêtes sur les représentations sociales, la dépression est bien repérée comme étant un élément, ça fait partie du noyau périphérique des représentations. Donc, on connaît tous, et tout le monde connaît quelqu'un autour de soi qui a traversé un épisode dépressif.
Oui.
Et donc, tout citoyen peut se dire, moi aussi, à un moment donné, je peux connaître un coup de monde, je peux traverser une période dépressive. Donc, la dépression, effectivement, il y a des éléments comme ça sur quelques pathologies qui sont mieux acceptées, mieux comprises socialement. Mais si on parle de psychose, de schizophrénie, de maladie mentale, là, ça ne bouge pas. Et c'est de ce dont nous parle Blaise.
Oui. Blaise, vous êtes aujourd'hui enseignant dans le domaine de la santé. Quelles sont les erreurs à ne pas commettre, justement, lorsqu'on est soignant ? Qu'est-ce que vous enseignez ?
Alors, à partir là de mon expérience, j'ai été quand même sensibilisé à quelque chose qui, en tant que patient, est vraiment extrêmement désagréable, c'est-à-dire l'impression, à un moment donné, qu'un certain nombre de décisions sont prises de manière arbitraire. Et donc, que des décisions qui concernent sa vie, son autonomie, ou un certain nombre de choses comme ça importantes pour soi, au fond, on peut avoir, dans le contexte psychiatrique, l'impression que elles vont être prises sur la base du fait que quelqu'un a peut-être mal dormi ou que ça dépend sur qui on tombe ou qu'il y ait des variables comme ça qui ne soient pas de l'ordre d'une réflexion professionnelle très poussée, mais plus d'un contexte qui est d'une manière ou d'une autre. En sachant que des fois, ce n'est pas le cas, mais que selon comment l'information est donnée par rapport à la décision qui est prise, on peut avoir ce type de perception en tant que patient. Et ça, je pense qu'il y a quelque chose là vraiment d'essentiel, c'est pour les équipes de se donner vraiment des moyens réflexifs quand il est question de prendre des décisions qui vont à l'encontre de l'autonomie de la personne. Que certaines fois, effectivement, ce n'est pas possible de faire autrement, mais je pense que tant pour le bien-être des soignants en termes de satisfaction professionnelle que pour, au fond, le bien-être du patient dans le sens de lui permettre d'avoir accès aux éléments qui ont fait prendre cette décision, c'est vraiment essentiel de se donner des moyens réflexifs et d'informer correctement.
Oui.
Que souvent, effectivement, dans la manière dont les choses se passent, c'est pas forcément fait de manière idéale. Et ça, ça peut amener, entre guillemets, à de la frustration et à de la violence si on a l'impression que on s'occupe de vous, mais entre guillemets, je dirais, de manière un peu légère, d'une certaine façon.
J'imagine, oui.
Voilà, et que ça, je pense effectivement que c'est un élément vraiment important. Peut-être un autre élément, c'est qu'en tant que patient, c'est extrêmement désagréable d'avoir l'impression des fois d'avoir affaire à un rôle professionnel plutôt qu'à une personne. Et donc, cet aspect vraiment, je pense essentiel d'avoir vraiment quand même des interlocuteurs en face et des gens qui se laissent quand même un peu déstabiliser, qui ne sont pas complètement monolithiques et qui, ben, on parlait effectivement tout à l'heure de la peur et que ça peut arriver d'avoir peur, mais ça peut effectivement pour un soignant dire à un moment donné « mais vous me faites peur ». Et là, tout d'un coup, ça remet une dimension humaine, ça recrée un lien et ça permet probablement d'aller ensemble vers autre chose.
Oui.
Si effectivement le soignant se dit mais il faut absolument que je fasse pas que je ne montre pas ma peur et donc que je sois le plus neutre possible, selon en tant qu'interlocuteur, c'est extrêmement difficile de se trouver face à un positionnement de ce type-là.
Oui, il faut montrer qu'on est touché, qu'on reçoit l'information.
Mais oui, et d'être honnête et de se dire qu'effectivement c'est pas un risque cette honnêteté-là. C'est plus au fond une chance de créer un lien et justement d'éviter des situations qui pourraient déraper par cette mauvaise qualité relationnelle, par ce lien au fond qui n'est pas établi. Et ce lien, il peut être que authentique d'une certaine façon, si on le veut au fond de qualité.
Oui, Blaise. Vous qui enseignez, est-ce qu'il y a de mauvais soignants? Est-ce qu'il y a, il y a des soignants qui n'ont rien à faire dans ce métier, qui ne sont pas assez bons?
Moi, je pense effectivement on fait ce qu'on peut. Et puis, ce qui est peut-être important de prendre en compte, c'est que, et ça, je trouve dans les soins infirmiers, des fois, c'est un peu compliqué dans le sens où il y a cette idée que tout le monde devrait pouvoir tout faire. Et je pense qu'effectivement, il y a des gens qui, en fonction de leur histoire et en fonction de leurs compétences, sont plus habiles et sont plus à l'aise dans certains domaines, peut-être par rapport avec certains patients, et que ça, c'est quelque chose qu'il faudrait respecter. Qu'effectivement, on a chacun, en fonction de nos histoires, plus de difficultés par rapport à certains types de situations, et qu'il y aurait vraiment à se dire qu'on regarde qui c'est qui, au fond, dans un contexte donné, est peut-être le plus à même et le plus à l'aise par rapport à poser tel type d'acte. Et donc, de tenir compte, au fond, qu'effectivement, on n'a pas tous les mêmes compétences et on n'a pas la même histoire. Et que là, il y a vraiment aussi une singularité à reconnaître sur le plan des professionnels.
Oui, oui. Un soignant, un infirmier peut choisir son secteur, peut choisir dans quel secteur il va travailler?
Alors, ça dépend des établissements. En fonction des besoins, mais généralement, effectivement, il peut proposer des choix d'affectation chez les enfants, chez les adultes. Évidemment, une expérience en hospitalisation temps plein est souhaitée, mais après, les dispositifs de soins en psychiatrie sont vraiment extrêmement diversifiés, que ce soit par pathologie, par tranche d'âge, par proposition, que ce soit en ambulatoire, en centre médico-psychologique, en centre d'accueil thérapeutique, en hôpital de jour, en centre de post-cure, en maison relais, en appartement thérapeutique, que ce soit en hospitalisation temps plein, de crise. Enfin, donc effectivement, il y a une très grande diversité de choix qui fait que ça peut être c'est potentiellement une profession très riche. Mais si vous voulez bien, je voudrais revenir sur les trois points que vous avez questionnés.
Oui, alors Jean-Paul, il nous reste peu de temps, donc faites vite, puis on va conclure cette émission.
Le premier point, c'est effectivement le savoir-être dont on parlait. Reconnaître qu'on a peur dans un moment, c'est donc congruence avec soi. Et si on est congruent, le message est plus fort. Si on dit effectivement qu'on n'a pas peur et qu'on sent bien qu'on est blanc et qu'on a une parole figée, évidemment, ça va insécuriser la relation. Donc là, on recrée de la symétrie. Ça fait partie des savoir-être à apprendre. Un autre point, c'est qu'en psychiatrie, plus qu'ailleurs, notamment dans ces moments de crise, la parole, Blaise nous le dit aussi, a été malmenée, bousculée, décrédibilisée. Donc c'est important d'avoir une parole vraie, directe. Et donc la parole la plus vraie, c'est celle qui est congruente avec ses sentiments, son regard et son action. Oh, ce n'est pas une parole juste au niveau diagnostique, c'est une parole vraie. Et donc ça, c'est un point important. Et utiliser les compétences de chacun et les ressources de chacun Quand ça fonctionne, ça s'appelle une équipe.
Oui, oui, oui. Merci à vous deux. Merci Jean-Paul Lanctin, infirmier en secteur psychiatrique. Vous faites aussi partie du groupe de recherche en soins infirmiers. Et merci à Blaise Rochat, qui est enseignant dans le domaine de la santé et père aidant également. Je vous remercie tous les deux.
Merci de votre invitation. Vivre FM.
Très bonne journée.
C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.